ou je sais pas quoi, foie gras. J'espère que ça vous fait plaisir que Elsa ait choisi théologie. Parce que moi, ça me fait très très plaisir. Bravo Elsa. Bravo de voir la jeunesse qui s'intéresse aux Écritures et à la théologie. Waouh. Non? Je sais pas, moi ça me choque, mais dans le bon sens. Merci beaucoup Elsa. Continue, sois un modèle pour beaucoup derrière toi. Alors, on va... C'est triste aujourd'hui. Non, c'est pas triste. Non, c'est pas triste parce que Henri, il a lu Matthieu 28 et c'est la résurrection. Mais c'est triste un peu parce que c'est le dernier chapitre. Mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres livres dans la Bible. Et j'espère que vous n'allez pas mettre Matthieu de côté après cette étude, mais qu'au contraire, vous allez, on va s'y plonger encore et encore pour se régaler. C'est écrit petit aujourd'hui. Je vais me casser les yeux, c'est pas grave. Alors, ce que j'avais envie de faire ce matin, c'est avant d'aller directement dans le chapitre 28, c'était de reprendre un petit peu. Et de faire un survol, alors forcément très rapide, parce que en plus c'est un des plus longs livres. Mais voilà, de refaire un survol de ce que Matthieu nous dit pour après arriver à ce moment de la résurrection. L'équipe d'anciens responsables espère en tout cas que vous avez apprécié cette méthodologie de suivre un livre et d'aller jusqu'au bout. On n'a pas fait ça souvent, on l'a fait même qu'une fois ou deux, je crois, dans mes souvenirs. Et on voudrait que vous nous fassiez des retours par rapport à ça. Voilà, qu'est-ce que vous avez apprécié, qui était peut-être un petit peu plus difficile et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, parce qu'on a envie de reproduire ce genre de choses, de prendre un livre et puis de le parcourir dans sa globalité. Il y a plusieurs bonnes raisons à cela, et je trouve que ça nous donne une dimension qui est plus large que, si, que quand on se plonge juste dans un passage spécifique. Donc, n'hésitez pas à faire des retours par rapport à tout ça. Alors, du coup... On va parler de l'évangile de Matthieu. Alors, la plupart des commentateurs qui ont commenté sur ce livre vont dire que Matthieu a été écrit. L'évangile de Matthieu a été écrit en premier pour la communauté juive. Si on le compare avec l'évangile de Luc, où Luc, par exemple, va faire un effort un peu plus nécessaire, j'allais dire, sur le langage, sur le vocabulaire. Matthieu, lui, va utiliser un vocable qui va s'adresser essentiellement aux Juifs, enfin, du moins en premier. Tout au long de l'évangile, on voit que Matthieu essaie de démontrer une chose centrale, c'est que Jésus est bien le Messie annoncé et semble proposé tout au long comme une relecture de la première alliance des écrits avant Jésus, justement au regard de l'avènement de ce Messie. Alors, Matthieu nous présente Jésus comme le grand roi annoncé. Il nous dit le fils de David qui s'assiera sur le trône de David. Et Matthieu précisera même que ce fils-là, il est plus grand. Il est plus grand que le fils charnel de David, en disant, il y a plus ici que Salomon. On trouve ça dans Matthieu 12, 42. Celui qui doit siéger sur le trône de David est le fils éternel. Ce n'est pas un fils charnel, en fait. c'est le Fils éternel. C'est lui qui va construire la vraie habitation de Dieu que l'on retrouvera dans l'éternité. Le temple construit par Salomon, le fils charnel, va être détruit. Et le nouveau temple, le corps de Christ, lui va être reconstruit par le Fils éternel lui-même, par Dieu en personne. Assez bien, vous suivez au fur et à mesure que je parle. Alors, on va retrouver une expression qui revient pas mal de fois dans l'évangile de Matthieu. C'est l'expression « pléro » en grec, qui veut dire « accompli », l'accomplissement. Et souvent, c'est utilisé dans le sens de l'accomplissement des Écritures. En fait, par 14 fois, on voit ce terme apparaître dans Matthieu. Vous avez les références là-haut. Et qu'est-ce que fait Matthieu avec ça ? Ben, il souligne fortement que l'accomplissement prophétique de la venue du Messie et donc des Écritures est en train de se passer, de se produire. Et il souligne aussi, en fait, que Jésus, la venue de Jésus, va remplir tout. En fait, pléro, ça signifie, dans le sens premier, c'est le sens accomplir, mais ça signifie plus que ça, ça signifie aussi achever, ou alors être rempli, remplir. Ça signifie aussi combler de manière parfaite. Et donc Matthieu, tout au long de l'évangile, nous présente Jésus comme étant celui qui est l'origine de tout, comme étant le sens de toute chose, le but ultime de l'œuvre de Dieu. Vous allez me dire, mais Matthieu est christocentrique. Eh bien oui, comme tout le Nouveau Testament, il est christocentrique. Ce qui est important, ce qui donne du sens à ma vie, c'est lui, en premier. Amen. Paul dira en Éphésiens 1, 23, forcément il va dire la même chose, il va dire que Jésus est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est ce que Matthieu essaye de nous présenter avec ce mot qui revient constamment dans son évangile. Jésus est celui qui remplit tout en tous. Alors dans les premiers chapitres, on a vu que Matthieu semble présenter Jésus en récapitulant les événements majeurs de la vie d'Israël dans l'ancienne alliance. Jésus, c'est bien, vous êtes bon là-bas, se réfugie en Égypte dans son enfance, à l'époque où Hérode veut faire mourir les premiers-nés. Et ça nous rappelle ce qui s'est passé en Égypte. Et comme Israël, Jésus est appelé hors d'Égypte. D'accord ? Cet appel, laisse partir mon peuple. Et puis après, Jésus passe par les eaux, d'accord ? Son baptême, symbolisant la traversée de la mer Rouge. Il se retrouve au désert pendant 40 jours, bien sûr. Ça fait écho aux 40 années du peuple dans le désert. Et là, Jésus a été tenté. Ensuite, on le voit où ? Sur une montagne, les Béatitudes. Et là, c'est comme Moïse au Sinaï, en train de proclamer la parole de Dieu. Et en fait, tout au long de l'évangile de Matthieu, on voit l'histoire du peuple d'Israël qui est récapitulée, avec de nombreux lieux, personnages, symboles. Et il y en a pas mal, on peut citer, j'en ai cité quelques-uns, Sodome, Bethléem, Tyré, Sidon, mais aussi Abraham, Moïse, David, Salomon, Jonas, Ésaïe. Et il y a aussi des personnages comme le berger, le fils de l'homme, ou des symboles, le pain de vie, la transfiguration, le temple, l'agneau, le sang, etc., etc., etc. Et alors, quand on est face à tout ça, on peut avoir deux lectures par rapport à cette récapitulation. Soit c'est Jésus qui récapitule l'histoire d'Israël, soit c'est Israël qui anticipait l'histoire de Jésus. Et je penche pour la deuxième lecture, celle où c'est Israël qui anticipait l'histoire de Jésus. C'est comme Adam, qui était à l'image, qui était à l'image du nouvel Adam, c'est-à-dire Jésus, ou Melchizedek, qui aussi était l'image du seul souverain sacrificateur, c'est-à-dire Christ. Et donc le modèle n'est pas que Jésus devait être rendu conforme à l'histoire d'Israël, mais je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est le contraire. C'est Israël qui devait ressembler à son Messie. Et c'est pour ça que Matthieu, je crois, nous présente Jésus comme étant celui qui accomplit pleinement les Écritures. Et ce n'est pas tant, et souvent on aborde ce sujet-là sous cet angle-là, c'est pas tant qu'il y avait un texte spécifique ou une prophétie précise sur la venue du Messie, même si c'était le cas, on estime environ à 300 prophéties ou paroles qui annoncent la venue, qui concerneraient le Messie. Mais quand Matthieu parle de l'accomplissement de la loi et des prophètes, c'est parce que Jésus, en fait, il vient donner le sens plein aux Écritures, le sens complet. C'est ce que Jésus continuera de faire, on le voit dans un autre évangile, après sa résurrection, quand il part vers Emmaüs avec les disciples et il leur explique dans les Écritures tout ce qui le concernait. Donc c'est ce qu'on retrouve dans ce mot pléroo que je vous ai présenté, où il y a ce double sens d'accomplir, mais aussi de rendre plein, de rendre complet. Et donc Jésus n'est pas venu juste pour accomplir une portion de l'Écriture, mais il est venu pour la remplir complètement. Il est venu pour être Israël de façon pleine, complète et parfaite. Il est celui qui est capable d'accomplir parfaitement la loi de Dieu, c'est-à-dire toutes les attentes que Dieu avait dans la première alliance. Il est celui qui a été capable d'être la vigne ou le figuier qui porte le fruit que Dieu attend. Pour prendre un autre parallèle, Paul, dans 1 Corinthiens 15, au verset 45, il nous dit que Jésus est le dernier Adam, dans le sens une dernière génération, la nouvelle génération. Et ce n'est pas juste que Adam était une préfiguration, c'est-à-dire qu'il pointait vers Jésus, ou qu'il était ce qu'on appelle en théologie une typologie, c'est-à-dire que c'était un type de Christ. Oui, il était ça. Mais en fait, Jésus a fait ce qu'Adam n'a pas pu faire ou ne pouvait pas faire. Jésus a obéi à Dieu sans jamais pécher, ce qu'Adam a été incapable d'accomplir. Jésus n'est pas comme Adam. On pourrait dire ça, mais non, Jésus, il est mieux qu'Adam, il est plus grand, il y a plus ici que Salomon, Matthieu nous dit. De la même manière, Jésus est l'Israël parfait et accompli pleinement et parfaitement toute l'histoire du peuple, l'appel du peuple et la destinée d'Israël, en obéissant pleinement à la loi et à la volonté de Dieu, en restant constamment séparé du péché, ce qu'Israël n'a pas pu faire. Au travers de Jésus, Israël est devenu la bénédiction pour toutes les familles de la terre. car Paul nous dit dans Galates 3 que Jésus est la postérité d'Abraham et il s'est fait salut pour toutes les nations de la terre. Je crois que Matthieu essaie d'expliquer tout au long de l'évangile que sans Christ, en fait, on a parlé de la lumière, on a chanté la lumière, sans la lumière de Christ dans les Écritures, eh bien la compréhension est soit incomplète, soit même parfois fausse. C'est pourquoi on a tous ces passages qui sont remuants. D'ailleurs, c'est Matthieu qui est le plus secouant par rapport aux dirigeants et à ceux qui guidaient le peuple juif. Parce qu'il voulait, je pense, mettre en lumière que sans Christ, notre interprétation des Écritures, c'est pas ça. Et donc, on a tout... il y a plein... Matthieu 5, quand Jésus dit, il vous a été dit, mais moi, je vous dis, on voit que Jésus vient donner du sens. C'est pas tant qu'il va réécrire les Écritures, puisqu'il va reprendre les Écritures, mais il va leur donner le sens plein. Dans Matthieu 5, 20, il est dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Parce que la compréhension de la justice de Dieu, elle était partielle, voire pas bonne. Matthieu 16, 6, Jésus dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Et au verset 12, alors les disciples comprirent que ce n'était pas du pain dont Jésus parlait, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Toujours avec cet objectif, cette intention de dire sans moi, sans ma révélation, la compréhension est partielle. Et puis il y a tout le chapitre 23, si vous vous rappelez, où là, on voit un Jésus dur avec tous ses malheurs à vous, scribes et pharisiens, et des mots très très durs. Et j'ai pris juste quelques exemples où il dit « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Et puis au verset 34, Matthieu va conclure ce chapitre-là en disant, c'est pourquoi, « Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. » Et Jésus est en train de dire, « J'en envoie encore, mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez les tuer, les crucifier, les battre, et vous les persécuterez de ville en ville. » Encore une fois, c'est, « Vous ne comprenez pas le message. Pourquoi ? Parce que vous ne m'avez pas reçu, parce que Jésus est vraiment la véritable lumière qui éclaire toute chose dans nos vies. Et Jésus donc annonce clairement que une nouvelle façon de conduire le peuple est donnée maintenant. Et alors que Matthieu nous présente tout ce que Jésus remplit ou complète par sa venue, il y a un point, je dirais qu'il y a un point culminant dans l'évangile de Matthieu, et c'est au chapitre 16. Et on pourrait même dire que c'est un point de basculement. C'est le moment de la confession de Pierre, quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et à partir de ce moment-là, il y a deux choses qui se passent, et on retrouve ça dans les autres évangiles aussi, c'est que Jésus commence ouvertement à annoncer le chemin de croix. Alors que tout Israël attendait un Messie triomphant qui allait combattre Hérode et même César, puisque le Messie était censé imposer sa domination, Jésus commence à dévoiler comment lui, il allait établir le règne de Dieu sur terre, par sa souffrance et sa mort à la croix, et puis par sa résurrection le troisième jour. Et les disciples, même les disciples qui étaient à côté de lui et qui entendaient Jésus parler tout le temps, ils vont mettre du temps à comprendre. Et en réalité, il va falloir même attendre la résurrection. Ce que Jésus essaie de leur expliquer, ben c'est en dehors de leur perception des Écritures. Pour eux, le fils de David, comme on a parlé au début, doit s'asseoir sur le trône et régner. Et c'est pourquoi, même après le chapitre 16, les disciples continuent de se disputer. Qui va être le plus grand dans le royaume de Jésus ? C'est toi ou c'est moi, Corinne ? C'est toi ? Et en Matthieu 20, ben, on a la meilleure maman au monde qui peut exister, la mère de Jacques et de Jean, et qui va voir Jésus et qui dit « Tu ne peux pas en mettre un à ta droite et un autre à ta gauche, s'il te plaît ?» Ah, la maman. Les disciples continuent de s'attendre à l'établissement d'un royaume terrestre, ce qui est la vision traditionnelle juive de la venue du Messie. Et devant Pilate, Jésus fera cette déclaration qu'on ne retrouve pas dans Matthieu, mais dans Jean, Jean 18, 30, 36. Il dira « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et c'est pourquoi, à partir de ce moment-là, Jésus va prêcher de plus en plus le chemin de croix et le Messie, non pas glorieux, mais souffrant. Celui qui va être crucifié et qui va ressusciter. Et à partir de ce moment-là aussi, il y a l'introduction d'une nouvelle entité, nouvelle entre guillemets, c'est l'Église. L'Église entre en scène. Et c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu où l'Église arrive, où l'Église est citée, du moins, pas qu'elle arrive. C'est aussi à partir... c'est la mort et la résurrection de Christ vont faire apparaître un nouveau peuple où ce ne sera plus Moïse ou les chefs du peuple d'Israël qui vont le diriger, mais ce sera le Fils éternel, le Fils de Dieu lui-même qui en sera la tête. Et on trouve cette symbolique, je trouve assez forte au chapitre d'après, au chapitre 17, avec la transfiguration, si vous vous rappelez, de Jésus. À la manière de Moïse, Jésus devient lumineux comme le soleil. Et vous vous rappelez, Moïse, qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il devait se couvrir, mais quoi ? La tête. Et là, Jésus, dans le descriptif, c'est pas seulement sa tête qui resplendit, c'est tout son corps. Il est lumineux de la tête aux pieds. Et à nouveau, on a deux personnages qui sont présents à côté de Jésus. C'est Moïse et c'est Élie. C'est qui ? C'est la loi et c'est les prophètes. Et là, encore une fois, il y a cette symbolique de Jésus qui donne le sens plein, complet à l'Écriture. Et alors que lors de son baptême, Dieu avait dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans ce passage-là, Dieu va ajouter deux mots à la fin. Il va dire « Écoutez-le. » Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il va dire « Maintenant, c'est lui que vous devez suivre. C'est lui qui va vous expliquer. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité, c'est lui qui va vous amener vers moi. Écoutez-le. » Et cette communauté, donc, que Jésus appelle l'Église, sera désormais composée de toutes les familles de la terre qui vont entrer dès la Pentecôte dans le peuple élu et racheté par Christ et pour Christ. Et on avance et on arrive peu à peu dans la dernière semaine avant la crucifixion. Et là, Jésus annonce un changement dans le sacerdoce qui avait lieu jusqu'ici. Et on va basculer petit à petit d'un sacerdoce, j'allais dire, individuel, où il y avait un souverain sacrificateur, un prêtre, à un sacerdoce universel. On pouvait relire l'Épître aux Galates, qui décrit pas mal ça, où nous devenons tous des prêtres et des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Et on voit dans le déroulement des chapitres 20 à 25 que Jésus va pleurer sur Jérusalem, annoncer sa destruction au chapitre 24. Et le jugement qui surviendra sur Jérusalem plus tard, en l'an 70, sera comme une préfiguration, encore une fois. L'histoire d'Israël préfigurait le Christ, l'histoire de Christ. Et encore une fois, le jugement qui s'est abattu sur Jérusalem et qui, je crois, est largement décrit dans le chapitre 24 de Matthieu, mais en fait, ce n'est qu'une préfiguration du jugement final de tout le monde, de toutes les nations, à la deuxième venue du Messie. Et on arrive petit à petit au chapitre 26 et 27. On est presque au 28. Ça va? Vous êtes toujours là? Et là, ce sont, à la grande surprise, non, pas vraiment, les deux chapitres les plus longs du livre de Matthieu. Intéressant. Et même de tous les évangiles. C'est les deux chapitres qui décrivent la passion de notre Seigneur. Et chez Matthieu, la passion occupe une grande place. Probablement, parce qu'il voyait la croix comme étant le triomphe final, le grand accomplissement de ce que Dieu avait prévu. Jésus boit la coupe de la colère de Dieu et triomphe de la mort et du péché. Les plans de Dieu sont inattendus. Tout le monde a été surpris. Et Jésus est bien le fils de David, le Messie triomphant, mais qui a triomphé à sa manière en mourant à la croix. Paul nous le décrira avec ses mots à lui dans Colossiens 2. Ah, je l'ai pas mis. Si. Il dira à partir du verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, encore une fois, la plénitude de Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Comment ? En triomphant d'elles par la croix. Voilà comment Jésus a venu triompher et établir son règne sur la terre et sur nous. Et on arrive au chapitre d'aujourd'hui. Enfin. Ça va, tu t'es pas endormi? Non. Non mais voilà, je trouvais que c'était bien de se replonger un petit peu. dans tout ça. Et alors, au chapitre 28, qu'est-ce qu'il se passe? On l'a dit plusieurs fois ce matin, Jésus est ressuscité. Amen. Ah, quand même, ça fait plaisir à certains. Moi aussi, ça me fait plaisir. Et c'est extraordinaire. Et je veux juste qu'on s'arrête un petit peu là-dessus aussi. Je sais que c'est déjà midi, que les estomacs gargouillent. Mais déjà à l'époque de Jésus, il y avait des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Il y a ce groupe qu'on appelle les Sadducéens. Et dans notre société moderne, il y a de nombreux groupes qui ne croient pas en la résurrection. Et il y a plein de philosophies qui nous sont proposées aussi aujourd'hui. On nous parle de la réincarnation en animal ou en plante ou je ne sais pas quoi, autre chose de la nature. On peut aussi devenir une partie de l'univers, au choix. Peut-être on peut devenir un dieu aussi, avec certaines philosophies. Ou simplement, pour les naturalistes, un bon engrais pour le sol, un bon fertilisant. Mais voilà, au chapitre 28, Matthieu nous fait une des proclamations les plus fortes du christianisme. Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts et Christ est le modèle de cette résurrection. Est-ce qu'on le croit, ça? J'aime bien quand Jean il dit ça a été écrit en premier pour qu'on le croit. Est-ce qu'on est sûr qu'on le croit, ça, la résurrection? J'allais dire, c'est facile de croire en la mort, parce que la mort, on connaît. C'est facile, entre guillemets, de croire en la souffrance. Il suffit de laisser le temps faire, puis de se lever le matin et de faire « aïe !» Mais la résurrection, est-ce que j'y crois? Est-ce que ma foi, elle est vivante? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise avec mes collègues de boulot, avec ceux qui ne sont pas à Christ et avec qui je parle? Est-ce que je parle facilement? Et au fait, tu sais, Jésus, il est ressuscité. Et moi aussi, je vais ressusciter quand il va revenir. Est-ce que nous sommes à l'aise avec ça? Parce que nous devons l'être. Parce que c'est ça le message de l'Évangile, c'est que oui, nous sommes morts avec lui. Et oui, nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Tout le monde a pris son baptême ici? Tout le monde s'est fait baptiser? Oui? Non? Personne? C'est ce que vous avez déclaré quand vous avez été baptisé, que vous êtes mort et que vous êtes ressuscité. Et c'est ce que nous devons déclarer au monde. Il est la résurrection et la vie. C'est notre message. Il n'y en a pas d'autre. Il est ressuscité. Rencontrer Jésus, c'est être au bénéfice de la résurrection et la vie que Dieu insuffle au travers de son Fils. Croire en Jésus, c'est recevoir par la foi qu'au jour fixé par le Seigneur, au son d'une trompette céleste, les morts reviendront à la vie. Car la mort n'a pas de pouvoir sur ceux qui sont cachés en Christ. C'est ça, Matthieu 28. Jésus est bel et bien ressuscité. Amen. Paul dira dans Romains 8, verset 29, « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à qui? À l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Amen. Jésus ressuscite en premier, et nous, à son image, nous ressuscitons aussi. Alors, une fois qu'on a posé ça et qu'on est enthousiaste avec ça, J'avais envie de dire, maintenant on peut être comme la maman la maman Zébédée, la maman de Jacques et de Jean, non? Maintenant on peut se voir à la droite ou à la gauche de Jésus qui règne sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? Alors j'allais dire, ouais. Surtout, en plus qu'on n'est pas bête, qu'on a lu tout le chapitre, et qu'au verset 18, Jésus dit bien, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors moi, j'ai bien envie d'être à sa droite et à sa gauche et d'aller régner sur la terre et d'aller conquérir la terre. Et c'est parfois comme cela qu'on présente l'évangile. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur Jésus. Et ta vie sera meilleure. Alors oui, elle va l'être, mais peut-être pas de la manière dont tu le penses. Et tu seras riche. Alors oui, tu seras riche, mais peut-être pas de la manière dont tu penses. Tu seras en bonne santé. Oui. Ta vie va forcément s'améliorer. Le triomphe, on assimile le triomphe de Christ à la prospérité, à notre prospérité. Sauf qu'il y a le verset 7 et le verset 10. Qu'est-ce qu'il y a de commun à ces deux versets? C'est juste pour voir si vous êtes encore avec moi. C'est presque fini, hein. Vous pouvez libérer encore un petit peu de sucre dans votre corps pour continuer de m'écouter. Quel est le mot qui est commun à ces deux versets? Eh oui, c'est la Galilée. Mince, il y a encore la Galilée. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, c'est le symbole du prophète méprisé, la Galilée. Ce n'est pas le symbole du triomphant, c'est de celui que l'on va mépriser. Il y a ce slogan qui revient dans les évangiles, qui dit « Mais peut-il venir de Nazareth, qui est une ville de la Galilée, quelque chose de bon ?» Non, mais c'est impensable. Comment vous pouvez imaginer ça? D'ailleurs, Jésus, souvent on disait « Mais c'est pas le Nazaréen ? C'est pas celui qui vient de la Galilée, lui ?» Et au moment où Jésus donne le grand mandat à l'Église, il le fait depuis la Galilée. Depuis la position du prophète méprisé. Et alors que oui, tout pouvoir lui a été donné, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et c'est comme ça que Matthieu va conclure son évangile. Oui, Jésus a vaincu. Il a tout pouvoir, mais sa victoire, c'est par la croix. Le modèle de notre Messie, de celui à la suite duquel nous marchons, c'est pas le David qui a pris sa fronde et qui a tué Goliath avec des armes. C'est celui qui est allé vaincre à la croix. Et il semblerait donc que l'entrée dans l'Église, dans la communauté de Christ, ne soit pas un plus au sens d'une amélioration de la prospérité de ma vie. Même si, bien sûr, on le sait, Dieu nous bénit. Amen. Mais entrer dans l'Église, c'est entrer dans la réalité, tout simplement. C'est ouvrir les yeux. C'est Jésus qui éclaire ma vie et qui remplit, qui donne du sens à toute chose. C'est entrer dans la réalité d'un monde en guerre spirituelle, au milieu duquel nous combattons aux côtés du vainqueur de ce monde. Amen. C'est ça, entrer dans l'Église. C'est ça, entrer dans l'Église. Et je crois qu'on doit réfléchir peut-être et penser à la manière dont on présente parfois l'Évangile. Il y a un auteur qu'on aime bien qui s'appelle Phil Moore qui racontait cette histoire où quelqu'un voulait se convertir. Je crois que c'était à la suite d'un parcours alpha où il était chez eux. Et combien d'entre nous, on aurait été là, « Ah oui, oui, allez, on va prier, on va prier, on va prier maintenant. » Et lui, ce qu'il a fait, il s'est arrêté, puis il lui a dit, « Mais non, on ne va pas prier aujourd'hui. D'abord, tu vas rentrer chez toi et tu vas réfléchir. » Parce que ce que Jésus va te demander, c'est ta vie. Parce que ce que tu vas laisser de côté, c'est tout ce que tu connais. Parce que l'engagement que tu vas prendre, il est plus que sérieux et il va changer radicalement toute ta vie. Et la personne est partie, est revenue le lendemain et elle a dit oui, je veux. Et je crois que parfois, enfin pas parfois, dans notre siècle, ce qui n'existait pas vraiment avant, hein, mais dans notre siècle moderne, il y a cette tendance forte à présenter un évangile bonus. Viens à Christ et tu auras le ticket gagnant du loto. C'est pas le message de Jésus. C'est pas le message de Jésus. Rappelons-nous Matthieu 5. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ça le message de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Génial! Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jean le dira aussi un peu différemment, il dira « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et il ne s'arrête pas là, heureusement, mais parce que ça va ensemble. Ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. L'Église n'est pas allée, en fait, dans l'histoire, et donc aujourd'hui encore, triomphante dans le sens de la prospérité ou de la renommée, des richesses matérielles, etc. Mais elle suit les pas de son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est le serviteur souffrant qui triomphe par la puissance de la croix. Et la conséquence de cela, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il sauve une multitude de gens que personne ne pouvait compter. Amen. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Matthieu conclut son évangile avec ces paroles de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'appel du Messie, après avoir été lancé premièrement à Israël, est désormais lancé dans le monde entier. Notre slogan, toi, suis-moi. Jésus nous envoie avec son autorité dans les nations pour proclamer le salut en Jésus-Christ. Et Matthieu termine la conclusion avec une deuxième conclusion. C'est to be continued. To be continued. Vous savez, dans les films avant, il y avait ça, quand il y avait une série de plusieurs films. Et il nous dit, voilà la grande aventure qui attend les enfants de Dieu, le salut obtenu par Jésus n'est pas votre point d'arrivée. C'est votre point de départ, le départ d'une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ça sera servir de témoignage à toutes les nations. Vous aviez envisagé ça? Mais c'est ce que Jésus nous dit. Et Matthieu conclut avec cet encouragement où il va dire, Jésus va parler bien sûr, va dire, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus sait comment triompher du monde par la folie de la croix. Amen. Soyons-en persuadés. Nous, on ne sait pas peut-être parfois, c'est dur. Mais lui, il sait comment triompher du monde par la folie de la croix. Et il nous fait cette promesse, je vous accompagne tous les jours. Tous les jours, je suis avec vous. Et je vais vous montrer comment marcher dans mes pas. Et cette aventure continue. On a le livre des Actes qui arrive après les évangiles, qui nous présente le début de cette aventure. Et nous sommes la suite de cette aventure, de ce grand envoi de Jésus dans les nations, ce grand envoi du Messie, et peut-être rappelons-nous-le, de la Galilée. Il nous a envoyés depuis la Galilée, parce qu'il nous a envoyés avec le triomphe scandaleux de la croix. Celui de la croix, c'est notre arme la plus puissante. Aimer, bénir, nous donner, servir. Waouh! Waouh! J'en connais pas d'autres comme lui. J'aimerais vous inviter à vous lever. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père, parce que tu ne nous as jamais laissés, Seigneur. Tu t'es toujours manifesté depuis Adam jusqu'à Jésus et jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es manifesté, Seigneur, au travers d'un peuple que tu t'es choisi. Tu as laissé, Seigneur, ta parole. Et tu es venu par la suite en personne, Seigneur, incarner ta parole. Merci de nous avoir éclairés, Seigneur, de nous avoir rendus participants, Seigneur, de ce projet mystérieux que tu as établi dès la fondation du monde, Seigneur. Seigneur, on ne prétend pas tout connaître de toi, même le contraire. Mais on sait que tu es avec nous, Seigneur. Tu es celui qui nous conduit chaque jour. Tu es celui qui nous éclaire chaque matin, Seigneur. Tu es celui qui veille, qui ne sommeille ni ne dort. Et Seigneur, on veut aller, Seigneur, parce que tu nous dis « allez ». On veut aimer, Seigneur, autour de nous, parce que tu nous dis « aimer ». On veut être cette source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, Seigneur. Alors je prie, Seigneur, que ta grâce continue, Seigneur, d'accompagner ton Église ici à Marguerite dans les projets que tu as prévus d'avance, Seigneur, pour que nous les pratiquions ensemble en tant que communauté. Seigneur, je veux bénir l'école qui est dans ces locaux et demander un renouvellement, Seigneur, de ta bénédiction Non pas qu'elle se soit arrêtée, Seigneur, mais on veut encore plus, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ce projet parmi les migrants, Seigneur. Que ta grâce coule à flot, Seigneur, dans ce bâtiment, aux portes de Marguerite, Seigneur. Et que ton salut vienne sauver, Seigneur, l'étranger qui est exclu, Seigneur, même de sa nation. Seigneur, je veux te prier pour ce projet qui va voir le jour, le mois prochain, Seigneur, parmi les sans-domicile, Seigneur, fixe. Que ta grâce, Seigneur, que ton amour incroyable et profond, Seigneur, baigne chacun, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, alors qu'ils vont venir prendre une douche, Seigneur, et penser à leur corps, toi, tu vas penser à plus que leur corps. Tu vas penser à leur âme, Seigneur. Tu vas penser à la vie éternelle que tu as mis en réserve pour eux. Et Seigneur, on te demande un amour incroyable qui soit manifesté avec cette œuvre-là, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans l'Église, Seigneur, où on peut proclamer l'Évangile, où on peut proclamer que tu es mort pour les péchés, Seigneur, mais aussi où on peut proclamer que tu es la résurrection et la vie, et qu'un jour, nous ressusciterons avec toi. Sois béni, Seigneur, sois béni de tout notre cœur. Amen.